Avec l'aide de Dieu, c'est Shabbat. En France, on lira la paracha Béar, alors qu'en Israël, on va lire la paracha Bechukotai. Dans le Dvar Malchut, le rabbi, il parle, le sujet du Dvar Malchut, c'est justement l'union entre Béar et Bechukotai. Donc il y a peut-être ici l'occasion d'établir un lien entre la France et Israël, vraiment, et de dire que ce Shabbat-là, il va unir vraiment la Tsarfat qui représente tout ce qui est au-delà de la nature, un service divin qui est basé vraiment sur Messirut Nefesh, avec la Kedusha d'Eretz Israël. Et avec l'aide de Dieu, la semaine prochaine, on lira la paracha Bechukotai en France, et ce sera pour nous l'occasion de parler d'un sujet bien spécifique à cette paracha. En tous les cas, donc, ce Shabbat-là, en France, on va lire la paracha de Béar, mais on va quand même établir un lien avec la paracha Bechukotai, puisque le rabbi, il insiste sur la différence qui existe entre les deux. Et donc, c'est quand même l'occasion de parler d'un sujet qu'on trouve très souvent dans la Chassidoute. C'est la différence qui existe entre la lumière qui entoure les mondes, la lumière d'Or Sovev, et la lumière d'Or Mémalé, la lumière qui s'habille dans le monde. On approche du jour de Shavuot, du don de la Torah, et le rabbi souvent nous amène dans la Chassidoute la différence qui existe entre des lettres qu'on écrit avec de l'encre sur du parchemin, et des lettres qui sont gravées dans les tables de pierre, les tables de l'Alliance. Dieu, il a gravé de son doigt les lettres des 10 commandements dans des tables de pierre. Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est, en fait, on pourrait comparer le monde dans lequel on vit avec ces lettres qu'on écrit sur du parchemin. Pourquoi? Parce que le monde, il a une existence qui nous semble être indépendante de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ressent pas la présence divine encore dans ce monde. Ce n'est que dans les temps messianiques qu'on va vraiment ressentir la présence divine, qu'on va vivre avec Dieu dans ce monde matériel. Donc le monde des temps messianiques, il est à l'exemple des lettres qui sont gravées dans la pierre. Parce qu'au moment de la venue du Mashiach, le lien entre Dieu et la création, il apparaîtra alors à l'évidence. À l'exemple des lettres qui sont écrites, qui sont gravées dans la pierre et qui ne font plus qu'un avec la pierre, dans les temps messianiques, on ne fera plus qu'un avec Dieu. C'est pour ça même que le rabbi nous enseigne qu'au moment du dévoilement du Mashiach, le concept de mitzvah, ça désigne un ordre, un commandement, ce concept-là, il va disparaître puisque Dieu, il n'aura plus besoin de nous ordonner les choses, de nous ordonner des commandements, parce que du fait qu'on va faire un avec Dieu, alors on va accomplir sa volonté de manière naturelle. C'est-à-dire que comme on fait plus qu'un avec Dieu, alors Dieu n'a plus besoin de nous ordonner de faire telle ou telle chose, on va le faire de nous-mêmes, puisque notre volonté, elle va se fondre avec celle de Dieu. Et de la même façon, on voit que des lettres qui sont gravées dans la pierre ne font qu'un avec la pierre. À la différence des lettres qui sont écrites sur du parchemin, qui sont séparées du parchemin, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes du parchemin. C'est pour ça qu'on a dit que le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est à l'exemple de ces pierres qui sont écrites, donc qui sont séparées du parchemin, comme on est d'une certaine façon pour le moment séparés de Dieu, parce qu'on ne ressent pas sa présence, alors que les lettres qui sont gravées dans la pierre font allusion justement au fait que dans les temps futurs, on ne fera plus qu'un avec Dieu. C'est le lien qui apparaîtra alors, c'est le lien de l'essence de l'âme juive, qui est enraciné dans l'essence divine, comme le rabbi le souligne très souvent dans le Dvar Malchut, c'est l'essence de l'âme juive enracinée dans l'essence divine, c'est-à-dire le lien entre un père et un fils, qui apparaîtra alors à l'évidence au moment du dévoilement du Mashiach. Alors dans le Dvar Malchut, justement, le rabbi, il va expliquer que la paracha Béar, elle évoque la réalité de ce monde matériel. Et la paracha Bechukotai, elle évoque l'essence divine. Alors pour quelle raison? Alors le rabbi répond à cette question en nous rapportant un enseignement du Ramban, selon lequel la matière première du monde, et pas plus, a été créée en une seule parole, alors que toutes les formes des êtres, avec tous leurs détails, ont été créées au moyen de 10 paroles. En fait, cet enseignement du Rambam, il répond à la question du Pirkei Avot, dans laquelle il est dit que les sages, ils ont demandé pourquoi le monde a été créé par 10 paroles, et pourquoi ces 10 paroles, une seule n'aurait-elle pas suffi? Comme ça, demandent les sages dans le Pirkei Avot. C'est-à-dire que le monde, Dieu, il aurait très bien pu le créer en une seule parole, mais il a créé en 10 paroles. Alors il y a plusieurs explications qui sont données, et c'est justement la réponse du Rambam qui est rapportée ici par le Rabbi, et il nous dit donc, comme on vient de le dire, que la matière première du monde, et pas plus, a été créée en une seule parole. Ça signifie en réalité que cette première parole, cette seule parole, elle évoque la force divine qui n'appartient qu'à Dieu de créer tout ce qui est dans le monde, tous les êtres de la création, toutes les créatures, de les créer à partir du néant. Comme on le dit, comme on rapporte souvent dans le livre du Tanya, la force de Yesh Mi'ayin, c'est-à-dire la création, Yesh, elle provient du néant. Seul Dieu est capable de créer à partir du néant le monde, de créer une chose à partir du néant. C'est une force qui n'appartient qu'à Dieu. Donc ça représente la première parole. Et les 10 paroles, elles correspondent justement à tous les détails de la création, en fait à la pluralité de ce monde. On a une parole qui représente cette force de Yesh Mi'ayin, et les 10 paroles qui correspondent justement à tous les détails qui sont créés, à tous les êtres de la création qui sont sur la terre, et qui représentent tous les détails, donc qui représentent toute la pluralité qui existe dans toute la création. Alors, une seule parole met donc l'accent sur le fait que tout provient de Dieu, et que tout lui est parfaitement soumis. C'est pourquoi le Rabbi, il associe cette seule parole à la partie de la Torah qui est au-delà du monde et qui ne fait qu'un avec le Créateur. À l'opposé, les 10 paroles représentent la Torah telle qu'elle descend dans le monde et telle qu'elle s'habille dans les 613 mitzvot, comme on a parlé de pluralité. Donc, et ça s'accorde, comme le Almora Zaken le souligne très souvent, ça s'accorde avec le fait que les 613 mitzvot correspondent aux 613 membres du corps. Donc cette comparaison entre une seule parole et les 10 paroles, elle se trouve aussi dans le sens même de la paracha Béar et de la paracha Bechukotai, puisque la paracha Béar, elle va évoquer le mont Sinaï et elle correspond aux 10 paroles qui sont données au moment du don de la Torah. Et pourquoi ? Parce que justement la montagne, elle représente l'élévation, une montagne, la hauteur d'une montagne, elle représente l'élévation d'un niveau vers un niveau supérieur. Donc ça évoque la pluralité et les différences qui existent dans le monde. Alors que la paracha Bechukotai, elle évoque elle-même une seule parole. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, le mot Hakika, on l'apparente au mot Bechukotai, ça signifie gravé. Quand on parle des lettres qui sont gravées, comme Dieu il a gravé de son doigt les tables de l'Alliance, on voit que les lettres de Dieu, elles sont unies à la matière. Elles sont unies à la pierre, d'un lien qui est très profond. C'est-à-dire qu'une lettre qu'on va graver dans la pierre, elle ne fait plus qu'un avec la pierre. La pierre, elle va se fondre dans la lettre, et la lettre, elle se fond dans la pierre. Donc les lettres divines qui sont gravées dans les tables, elles vont désigner la partie de la Torah qui est au-delà du monde, qui ne fait qu'un avec Dieu. C'est pourquoi, justement, la paracha Bechukotai, elle fait allusion à l'essence de la Torah, à la chassidoute, et ça correspond donc à une seule parole. Donc on comprend l'idée, on voit où le Rabbi va en venir ici. L'union entre la paracha Béar et la paracha Bechukotai, ça va exprimer l'idée qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour révéler dans ce monde, dans la pluralité de ce monde, dans tous les sujets de l'existence, dans les 10 paroles, on doit unir ces 10 paroles à l'essence divine, à une seule parole. En d'autres termes, ça signifie qu'on doit faire de ce monde qui est matériel une demeure pour l'essence divine. C'est-à-dire, on doit révéler de manière véritable la force de l'essence divine, une seule parole, de manière à ce qu'elle pénètre et ne fasse plus qu'un avec le corps de ce monde physique et surtout avec nous-mêmes. Donc ce lien-là qui existe entre une parole et 10 paroles, c'est le lien qui existe entre la lumière qui entoure les mondes, la lumière d'Or Sovev, et la lumière d'Or Memalé, la lumière qui pénètre et qui s'habille dans le monde. Donc quand le Rabbi nous enseigne que le dévoilement du Machar, il dépend du fait d'attirer les plus hautes lumières dans les réceptacles de Tikkun. C'est-à-dire, ça signifie qu'on doit révéler la lumière de l'essence, vraiment, l'essence divine, une seule parole. On doit la révéler, justement, dans ce monde matériel. On doit faire de chaque chose de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine. C'est aussi le travail du comte de Lomer, puisqu'on voit que on doit transformer l'âme animale, on doit transformer tous les aspects de notre personnalité, de manière à y révéler la force de l'essence de l'âme, puisque seulement l'essence de l'âme juive, elle a le pouvoir de transformer l'obscurité du mal, l'obscurité, le mal, en bien. De transformer l'obscurité de l'âme animale en bien, en faire faire de nous-mêmes vraiment réaliser le verset, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur avec nos deux penchants. Donc c'est ce lien-là qui existe entre la parasha de Béar et la parasha de Bechukotai, c'est faire en sorte de révéler la Torah qui ne fait qu'un avec Dieu dans tous les aspects de la Torah. Et alors, ce qui est valable pour la Torah, c'est valable aussi pour l'âme, puisqu'on doit révéler l'essence de notre âme dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire dans tous les aspects de nous-mêmes, dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Alors, on peut faire ici un lien justement avec le Rabbi Rachab, puisque le Rabbi Rachab lui-même, on a parlé cette semaine de cette histoire-là du Rabbi Rachab, quand on a raconté qu'il était en train d'étudier la Torah avec sa Chavruta, et puis il s'est arrêté en plein milieu de son étude pour aller voir son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui dormait dans son berceau. C'était alors un bébé, vraiment, un tout petit bébé qui dormait dans son berceau. Et le Rabbi Rachab est allé à regarder son enfant, et il a ressenti, il a éprouvé le besoin de l'embrasser, et il s'est retenu de lui donner un baiser, et il a remplacé cette idée-là par l'idée de lui écrire un mahamar chassidique. Finalement, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il il a réalisé son désir, puisque le jour de la bar mitzvah de Rabbi Yosef Yitzhak, il lui a offert un discours chassidique. Et il a intitulé ce discours « Un baiser chassidique ». Alors le rabbi, quand il rapporte cette histoire, il pose une question et il demande « Comment se fait-il qu'un baiser, vraiment, un baiser, quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est on ressent un amour qui est très profond, donc on dit des choses, on fait une chose, en fait, qu'on ne peut pas exprimer par des mots. Donc le rabbi conclut que le baiser, il provient de l'essence de l'âme. Comment se fait-il que le rabbi Rachab, il a remplacé ce baiser par un discours chassidique ? Alors le rabbi répond à cette question en disant que la lumière d'un discours chassidique est plus élevée que celle d'un baiser. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer que malgré tout, même si le rabbi Rachab a décidé de remplacer ce baiser par un discours chassidique, on voit qu'il a quand même intitulé son discours chassidique, il l'a qualifié de baiser chassidique. Donc, on se demande si le Rabbi Rachab n'a pas voulu, finalement, contenir toute la force de l'amour infini qu'il ressent pour son fils, donc sous la forme d'un baiser, s'il n'a pas voulu écrire, justement, prendre toute la force de ce baiser et l'introduire dans les mots de son discours chassidique. Donc quelque part, ça ressemble vraiment à l'union entre la parasha Béar et Bechukotai. Puisque, comme on l'a dit, Bechukotai, ça représente l'essence divine. Béar, ça représente la montagne, c'est-à-dire tous les niveaux de l'existence, tous les sujets de l'existence. En l'occurrence ici, ça représente le mahamar chassidique, c'est-à-dire quelque chose de matériel, un discours, un texte qui est écrit au moyen de mots. Donc ça représente seulement ce monde matériel qui doit devenir une demeure pour l'essence divine. Et c'est quoi l'essence divine dans ce cas? C'est justement la force infinie du baiser que le Rabbi Rachab voulait donner à son fils. Puisque le baiser chassidique, il exprime en fait le plus haut niveau de l'essence de l'âme juive. Puisque dans la chassidoute, on apprend que l'essence de l'âme, elle se révèle d'abord dans la profondeur du cœur. On dit en hébreu, on dit « umka deliba ». La profondeur du cœur, c'est l'endroit où se révèle l'essence de l'âme juive. Donc l'amour du Rabbi Rachab pour son fils provient de la profondeur du cœur du Rabbi. Et donc c'est lié directement avec l'essence de son âme. De la même façon, on voit que c'est pas seulement un baiser que le Rabbi Rachab veut transmettre à son fils, ce sont des paroles de chassidut, c'est-à-dire que ça désigne vraiment la sagesse divine du Rabbi. Et là, on doit savoir, et à l'évidence, que chaque mahamar chassidique de n'importe quel rabbi, de tous les rébéim, de tous les maîtres de la chassidut Rabbad, est lié avec la sagesse divine. C'est-à-dire que la chassidut, c'est vraiment l'essence de la Torah, et comme nous l'enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai, l'essence de la Torah est fait un avec l'essence divine. Donc révéler la sagesse divine, même on pourrait dire Chochma Stima, cette sagesse, la sagesse du monde, de la séphira de Keter, vraiment cette sagesse qui est cachée, cette sagesse qui est vraiment, qui fait qu'un avec Dieu, c'est là-bas que va puiser le rabbi des mots et des concepts et des idées, et la Torah, vraiment la Torah du rabbi, elle provient de ce niveau-là. Et justement, le rabbi Rachab, il va faire descendre ce niveau-là jusque dans les niveaux les plus bas, dans des lettres qui sont inanimées, dans des lettres qui sont écrites avec de l'encre. dans, justement, dans ce monde-là matériel, va devenir une demeure pour l'essence de l'âme du Rabbi. Donc, le baiser chassidique du Rabbi Rachab, il exprime cette union entre la paracha Béhar et la paracha Bechukotai. On va bientôt passer au livre de Bamidbar. Bamidbar, ça signifie le désert. Et ce désert-là qui est inhabitable, en fait, le Rabbi nous apprend et nous enseigne que le désert, ça représente un endroit qui n'a rien à voir avec l'homme. C'est pourquoi le Rabbi, il va comparer la partie de la Torah qui n'a rien à voir avec l'homme, si on peut dire entre guillemets, c'est-à-dire la partie de la Torah qui ne fait qu'un avec Dieu, qui est cette partie de la Torah qui est au-delà du monde, c'est vraiment l'essence de la Torah, c'est à cela que fait allusion le désert. Donc, comment on peut acquérir ce désert, la dimension du désert dans la Torah, c'est-à-dire l'essence de la Torah, c'est justement par ce qui qualifie le désert. C'est quoi le désert? C'est le désert, c'est la terre que l'on piétine et qui ne se plaint jamais. Donc c'est le désert, il exprime la plus totale soumission vis-à-vis de Dieu. Et donc cette soumission-là, elle représente vraiment l'essence de l'âme juive, puisque du fait que l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine, elle ressent la présence divine. Donc c'est une partie de l'âme qui ressent le divin. Et du fait qu'elle ressent le divin, elle est totalement soumise au divin. Mais on a expliqué dans un des enseignements de la Chassidoute, c'est que il y a le Rabbi lui-même, du fait qu'il est totalement soumis à Dieu, il n'a même plus conscience d'une certaine manière de sa propre existence. Comme on le sait que quand il dit un Mahamar chassidique, alors il est obligé de s'accrocher à la table, à la nappe qui repose sur la table, pour avoir un lien avec ce monde matériel. Donc on voit que le désert, il représente vraiment la soumission la plus totale, le bitoul. Et c'est par la soumission la plus totale aux enseignements du Rabbi qu'on parvient justement à recevoir les enseignements du Rabbi. Donc, et à partir du moment où on reçoit les enseignements du Rabbi, on va pouvoir les intégrer. Et vraiment à l'exemple du Rabbi Rachab qui va introduire un sentiment divin, un sentiment, un amour pour son fils qui est infini, cet amour-là, il va l'employer, il va l'utiliser, il va le faire descendre dans des mots pour les donner à son fils comme cadeau. C'est-à-dire un cadeau qui va éveiller dans le cœur du Rabbi Rayatz un sentiment qui est éternel. Donc on voit cette faculté, quand on parle de faire de ce monde une demeure pour Dieu, c'est réfléchir justement au moyen d'attirer ces lumières très élevées dont parle le Rabbi. C'est quoi en fait ces lumières très élevées? C'est un sentiment comme l'amour. L'amour de Dieu, l'amour Avat Israël. En fait même le mot Lubavitch, le nom Lubavitch, il signifie Luba, ça veut dire amour. Donc le nom Lubavitch, il exprime cet amour-là. L'amour qu'un juif ressent pour Dieu, l'amour qu'un juif ressent pour son frère juif, l'amour qu'un juif ressent pour tous les êtres de la création, pour toute la création tout entière, et l'amour qu'il ressent aussi pour la Torah. Et ce qu'on voit avec cette histoire du baiser chassidique, justement, c'est qu'on doit suivre l'exemple du Rabbi et exploiter, vraiment utiliser ce sentiment sacré, ce sentiment qui est sublime, cet amour-là, on doit l'employer vraiment de toutes nos forces, de manière à le graver dans le cœur de l'autre. Puisque le fait d'écrire un Mahamar chassidique, c'est de graver des paroles de Torah dans la pierre. Dans la pierre, c'est-à-dire dans notre propre cœur. Et ensuite, comme le Rabbi nous l'enseigne, les paroles qui sont dites avec le cœur, elles pénètrent dans le cœur de l'autre, elles y font leur effet. Donc le baiser chassidique, il a d'abord été ressenti par le Rabbi Rachab, et il a ensuite gravé dans le cœur de son fils. Et le Rabbi, qui nous rapporte cette histoire, il tente de le graver à son tour dans nos propres cœurs. On pourrait finir ici par une histoire du Rabbi Rayatz, justement. Et on voit à quel point il tient de son père, puisqu'on raconte qu'après le jour de Shavuot, le Rabbi Rayatz, il s'est comme ça isolé et il n'a reçu personne pendant les quelques jours qui ont suivi la fête de Shavuot. Alors tout le monde était étonné de ce silence, de son isolement. Et en fait, peu de temps après, le Rabbi a repris ses anciennes habitudes, il a recommencé à recevoir les gens qui désiraient avoir une yachidoute avec lui, mais quelqu'un lui a demandé pour quelle raison il s'était isolé. Et le Rabbi Rayatz lui a répondu qu'au moment du jour de Shavuot, alors que chaque juif se trouvait à ce moment-là sur le mont, l'âme de chaque juif, en tous les cas, se trouvait en haut sur le mont Sinaï, et le Rabbi Rayatz lui-même se trouvait sur le mont Sinaï, après le jour de Shavuot, le Rabbi Rayatz n'était pas descendu directement, et il est resté quelques jours en haut, sur la montagne. Et c'est pour ça qu'il n'était pas encore redescendu. Il s'était pas retrouvé encore une fois de manière naturelle et habituelle avec ses chassidim. Il était resté en haut sur la montagne. Donc, cette histoire-là, elle nous montre à quel point le rabbi, l'attachement du rabbi à la Torah de Dieu, l'attachement du rabbi vraiment au peuple d'Israël et l'attachement du rabbi à ses chassidim et à ce besoin d'être constamment animé par des pensées, des paroles et des actes qui sont imprégnés vraiment de l'essence divine. C'est ça le sujet de cette paracha, donc de Béar Bechukotai, unir cette parole divine, unir cette force qui est au-delà du monde, à l'exemple du désert, vraiment un endroit qui est au-delà du monde, cet endroit-là, y révéler vraiment le faire descendre l'essence de la Torah dans ce monde matériel et dans tous les sujets de ce monde matériel avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, et avec le dévoilement du Machar très bientôt et de nos jours avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom ou Mevorach.